Bonjour, mais je suis Franck, j'habite Le Neubourg dans l'Eure. Nous avons donc au sein de notre ville une splendide allée de 167 hêtres, dont malheureusement 36 d'entre eux sont malades. Donc ils devaient bien entendu être abattus, mais la municipalité a décidé d'abattre la totalité des 167 hêtres. Le massacre donc de ces hêtres a commencé dès ce matin. Nous venons de voir arriver plusieurs véhicules de la gendarmerie. Nous sommes dépités car nous avons interrogé à plusieurs reprises les services de l'État, la DREAL, la préfecture, et nous n'avons jamais eu de retour concernant la décision définitive de ce projet. Donc nous comptons sur vous pour partager notre détresse citoyenne. À bientôt.
Bonjour, Jennifer de Poligny. Je viens d'écouter l'émission sur le lynx dans le Jura. Je voulais dire aux gens intéressés par ce merveilleux animal qu'il y a une association dans le Jura qui s'appelle Athénas à l'étoile, qui depuis de nombreuses années recueille, soigne et relâche des lynx. N'hésitez pas à les contacter, ils sont formidables. Au revoir.
Bonjour, Goulven, à Fontenay-sous-Bois, à côté de Paris, dans un quartier dense d'immeubles et de pavillons, des pavillons qui polluent beaucoup par leur chauffage au bois, particulièrement ce dernier week-end où la région a connu un pic de pollution atmosphérique. Le préfet a émis des recommandations visant à limiter le chauffage d'agrément. Je crois qu'il n'a pas été entendu. Alors à quand une météo de la pollution largement relayée par les médias ? Merci.
Bonjour, c'est Nicole d'Orléans. Je souhaite répondre à Emmanuel, l'heureux auditeur des Hautes-Combrailles qui nous a fait part de la variété d'espèces d'oiseaux qu'il a pu observer en une année autour de sa maison. Je voudrais parler de ma maison, qui a la tête en ville et le cul à la campagne, comme toutes les maisons voisines. Côté cul, un grand jardin, un sous-bois, une rivière, et puis des champs maraîchers, probablement traités aux pesticides. Une fausse ville, une fausse campagne. Je m'en veux de doucher l'optimisme de cet auditeur, mais je vais évoquer nos nuits d'été devenues silencieuses. Autrefois peuplée des cris de tous les oiseaux nocturnes et des grenouilles, nos nuits désormais non perturbées de moustiques, quand nos journées sont sans mouches. La bascule s'est opérée en plus d'une année d'observation, bien sûr, mais bien moins qu'une décennie. En ces journées d'hiver, il reste quand même les mésanges, les merles et les pies. Les écureuils font toujours de l'acrobatie pour piller les mangeoires à oiseaux, mais les jets se sont raréfiés et on n'entend plus les pics depuis belle lurette. Bonne journée quand même, au revoir.
Oui, bonjour Tao Carré, c'est Antoine de Haut-Laurent-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai entendu par podcast une émission du 12 janvier que vous veniez prochainement en Vallée d'Ossau. Je n'en suis pas originaire parce que je suis breton, mais j'y ai vécu pendant 2 ans, j'habite dans le Béarn depuis quelques années maintenant. Et je suis super content et impatient d'attendre votre émission sur notre petit coin. Merci à vous, bonne journée, au revoir.
Eh bien Antoine, nous aussi, nous sommes très impatients de venir passer une semaine chez vous. Ce sera la saison 2, hein, des 4 saisons de la Terre au Carré, après les Vosges cet automne. Eh bien nous serons, qu'on se le dise, tous les jours en direct des Pyrénées, donc du 31 janvier au 4 février, depuis les différentes vallées du Massif, pour parler de l'hiver, bien sûr, avec toutes celles et ceux qui se mobilisent dans votre région. On prépare les après-ski, on arrive, et en attendant, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur le répondeur au 01 56 40 45 45. En 2017, des travaux scientifiques concernant le rôle des compagnies énergétiques et leur impact écologique dans la crise climatique révélaient que 100 entreprises dans le monde étaient responsables à elles seules de 71% des rejets de gaz à effet de serre imputables aux activités humaines. Dans cette centaine de sociétés qui sont toutes productrices de pétrole, de gaz ou de charbon, 25 d'entre elles émettent la moitié de ces gaz à effet de serre. Si parmi les plus grands émetteurs de CO2, on retrouve des poids lourds connus comme Shell, Total ou ExxonMobil, eh bien les 3 premières multinationales émettrices de carbone sont pratiquement inconnues du grand public, saoudiennes, chinoises, russes. Cette trinité des énergies fossiles mérite pourtant qu'on s'y intéresse tant leur responsabilité est grande dans la situation que traverse la planète sur le front climatique. C'est l'objet d'une enquête qui paraît, dont nous parlons cet après-midi, avec son auteur, Michael Correa. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Mediapart. Vous êtes spécialisé dans les questions climatiques. Vous publiez donc ce livre « Criminel climatique » aux éditions de La Découverte. Et à vos côtés se trouve Lucie Pinson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice et directrice générale de l'ONG Reclaim Finance. Vous avez reçu en 2020 le prix Goldman pour l'environnement. On va donc se retrouver dans un instant pour découvrir la réalité du brasier climatique et voir comment ces entreprises travaillent pour prolonger notre dépendance au carbone. Vous allez répondre aux messages et aux questions des auditeurs qui nous rejoignent comme tous les jours sur la page de l'émission, les réseaux sociaux et l'appli France Inter avec les notes vocales. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, on passe au vert.
Des réacteurs nucléaires à l'arrêt en ce moment en France. Je vous fais la règle des 3 C, cause, conséquence et critique.
Et voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée aujourd'hui par Chantal Lemontagnier, et c'est Ludovic Asselot qui est à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Ce Parisien a déjà fait évoluer son mode de vie. Pour les vacances, fini les voyages lointains en avion. Désormais, c'est direction l'Europe en train.
Quand on voit l'impact carbone que peut avoir un voyage long courrier ou même court courrier, on se dit que si on veut réduire son impact, c'est l'un des principaux leviers, ou l'un des premiers leviers sur lequel on peut toucher sans qu'il y ait véritablement de frustration.
Pour aller travailler aussi, ce commercial a changé ses habitudes avec toujours le même objectif, moins polluer.
Avant j'avais un scooter, j'avais pas forcément plus vite. C'était plus coûteux et finalement, ça apporte pas beaucoup d'avantages. Donc le vélo, c'est très bien.
Voilà, et nous allons voir au cours de cette émission que l'impact carbone de ce Parisien rencontré en 2019 pour France 3 n'est pas très important finalement par rapport à ces industries fossiles décrites dans ce livre Criminel climatique qui paraît aux éditions de La Découverte. Il s'agit donc d'une enquête que vous signez, Michael Correa, sur les multinationales responsables donc des émissions de gaz à effet de serre. L'idée pour vous, c'était quoi? C'était finalement de révéler au grand public qui se cache derrière ces multinationales?
C'était exactement ça. Et puis, à l'aune de la petite vignette que vous avez montrée, c'était essayer de, on va dire, briser le récit dominant de l'empreinte carbone individuelle. C'est un récit qui est quand même plus ou moins installé depuis les années 2000. Et ça, je le révèle un peu aussi dans le bouquin. C'est vraiment la British Petroleum, la BP, qui au début des années 2000 va vraiment mettre en place avec son agence de communication toute une campagne pour essayer de nous dire que c'est pas les entreprises qui sont responsables des gaz à effet de serre, mais bien les individus, quoi.
Avec l'idée de l'empreinte,
Avec l'idée de l'empreinte.
C'est vraiment le terme qui naît à ce moment-là,
On a eu pas mal de chantres de cette écologie des petits pas. Bon, il y a eu Pierre Rabhi, qui est malheureusement décédé il y a peu de temps. Mais on est en train de découvrir qu'effectivement, depuis ces études-là, depuis 2017 à peu près, que la responsabilité climatique, en tout cas des multinationales, est vraiment gigantesque. Pour moi, ce que ça cache un peu, c'est un peu l'espèce de logique libérale d'aujourd'hui d'essayer d'individualiser la responsabilité. On le voit avec les violences policières, on dit que c'est des individus et c'est pas l'institution policière qui est responsable de ces violences-là. On le voit avec le sexisme ou le racisme, essayer de démontrer que c'est pas systémique. Ce que j'essaie avec le livre, c'est vraiment de démontrer comment cette empreinte carbone ou cette individualisation de la responsabilité, elle permet surtout de détourner notre regard, en fait, de détourner notre attention politique des vrais fossoyeurs du climat.
Il faut faire attention, il ne faut pas non plus décourager finalement les bonnes intentions. On est toujours sur un fil finalement.
Oui, exactement.
Chacun essayant de faire des efforts, il faut les faire.
Exactement.
Quand même,
Ce que je dis, c'est que c'est important, ça peut nous permettre de mettre d'avoir un rapport sensible à la fragilité de notre monde, mais je ne pense pas que ce soit un grand levier mobilisateur. Je ne pense pas que la culpabilité, notamment celle qui est portée par les classes populaires, ce soit un bon levier de mobilisation.
Et puis, il ne faut pas non plus, moi j'ai une remarque qui me vient quand je vous écoute. Effectivement, vous dites, faut pas pointer que l'individu, il y a les entreprises, mais on peut pas complètement séparer non plus les entreprises des individus, puisque les entreprises répondent précisément à des consommateurs qui vont acheter, etc.
C'est plus compliqué que ça. Moi, je parle vraiment du fait qu'il y a une structure sociale, en fait, une organisation sociale, un capitalisme fossile, c'est le mot que j'emploie. Pour donner un petit exemple, c'est comme l'exemple du téléphone, par exemple. Le téléphone, il est arrivé sur le marché il y a à peu près une vingtaine d'années, le téléphone portable et le smartphone. Aujourd'hui, c'est impossible pour communiquer, pour travailler, même pour se déplacer dans les grandes métropoles, de vivre sans smartphone. Alors, pour le pétrole, pour le gaz et pour le charbon, c'est quand même la base, le socle même de notre civilisation occidentale, de notre civilisation industrielle. Donc, se désengluer de ça, ou en tout cas de dire, nous, en tant que consommateurs, on peut boycotter ça, je pense que c'est vraiment un discours assez erroné. Pour donner un petit exemple, par exemple, c'est la voiture. toutes nos villes, et aujourd'hui les campagnes aussi, elles ont été façonnées, ou en tout cas pour pouvoir utiliser la voiture, même en termes d'identité, enfin aujourd'hui encore la voiture, en termes d'imaginaire, c'est beaucoup synonyme de liberté, dans l'identité masculine aussi, il y a pas mal d'études féministes qui montrent ça, comment elle est intimement liée, la voiture intimement liée aux questions de virilité. Donc c'est difficile parce qu'on est vraiment englué dans cette structure sociale-là, et ce que j'essaye de démontrer à travers le livre, c'est vraiment de la dévoiler. Alors après c'est un prétexte, hein, utiliser les trois premières grandes multinationales, on va en parler pour dévoiler c'est quoi cette structure sociale, c'est pas les seuls responsables, mais c'est pour vraiment démontrer comment il y a tout un réseau aussi d'opérateurs et d'autres entreprises, un écosystème banquier, étatique et tout autour de cette organisation sociale.
Lucie Pinson, c'est important cette idée de déplacer justement le centre des responsabilités individuelles vers, au fond, les vrais responsables de la crise climatique.
En effet, je suis tout à fait d'accord avec ça, et la responsabilisation de l'individu face aux changements structurels qu'il faudrait mettre en place pour répondre réellement à l'urgence climatique, c'est un narratif qui a été développé par des majors pétrolières et gazières, dans lequel s'est engouffré à fond la majors pétrolière et gazière française Total, hein, qui argumente que, en effet, ce n'est pas à elle de baisser sa production d'hydrocarbures, puisque son rôle ne serait que de répondre à une demande croissante. Alors que, d'abord, il faut rappeler, en effet, par rapport aux Parisiens qui fait beaucoup d'efforts et qui change son style de vie...
Et qui a raison de faire des efforts, encore une fois.
Qui a raison de faire des efforts, mais quand bien même il aurait un comportement héroïque, et que tous, on aurait un comportement héroïque, on arriverait environ qu'au quart des baisses d'émissions de gaz à effet de serre qu'il nous faut mettre en place si on veut limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré.
Donc, c'est Carbon 4 qui a fait une étude là-dessus très précise, justement.
Voilà. Donc on sait bien qu'il faut mettre en place des changements beaucoup plus profonds dans notre manière de produire et de consommer l'énergie. Et il faut rappeler aussi que ces majors pétrolières et gazières aujourd'hui entretiennent cette demande. Notamment, on voit le rôle, et c'est notamment décrit dans le livre, que joué par des majors pétrolières et gazières qui développent leur activité, non pas dans la production qui se diversifie, mais qui se diversifie dans la pétrochimie par exemple, en développant le marché du plastique. Donc là, on voit bien aussi le rôle joué par ces entreprises pour bloquer toute transformation nécessaire.
Je donnais le chiffre tout à l'heure, issu de votre ouvrage, Michael Correia, 100 entreprises qui sont responsables donc à elles seules de 71% des rejets de gaz à effet de serre imputables aux activités humaines depuis 1988. La date n'a pas été choisie au hasard d'ailleurs.
C'est la date de création du GIEC, c'est quand on commence vraiment, il y a un consensus international pour dire que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique sont liés aux activités humaines.
Ouais. Pour autant, on ne peut pas arrêter ces activités et ces entreprises du jour au lendemain. Si la solution, elle était là, c'est absolument impossible. Toutes nos activités, Lucie Pinson, s'arrêteraient immédiatement.
Donc. On ne peut pas sortir des énergies fossiles du jour au lendemain, et d'ailleurs les recommandations des scientifiques ne nous disent pas de le faire. Ils nous disent qu'il faut organiser cette sortie du charbon, du gaz et du pétrole. Face à ça, on a des entreprises qui ne sont pas en train de mettre en place cette transition, cette sortie progressive, mais qui, au contraire, poursuivent une logique d'expansion. On a dans ce livre vraiment des majors qui sont les majors. Enfin, on est dans un livre des superlatifs. Hein. On a China Energy, qui est le premier producteur de charbon au monde et d'électricité, premier producteur d'électricité à partir de charbon au monde, qui quand même a en place 150 gigawatts de capacité de production d'électricité à partir de charbon. 150 gigawatts, ça correspond globalement à 3 fois le parc de l'Allemagne et de la Pologne réunis. Et aujourd'hui, on a face à nous à une entreprise qui développe autant de centrales à charbon qu'il y en a en Pologne. On a également Saudi Aramco et Gazprom qui sont...
Donc les Saoudiens et les Russes, en l'occurrence.
Tout à fait, ouais. Qui sont les premiers producteurs de pétrole et de gaz au monde, et deuxième et troisième expansionnistes dans ces secteurs-là. Alors que l'Agence internationale de l'énergie nous dit que si on est sérieux dans nos objectifs internationaux en matière climatique, et si on veut atteindre cette fameuse neutralité carbone dont on entend parler tous les jours par les entreprises mais également les politiques, eh bien c'est pas un ou deux ou trois nouveaux projets qu'il faut arrêter, c'est tout nouveau projet de production d'hydrocarbures qu'il faut abandonner dès maintenant.
Et donc inverser la tendance, hein, Michael Correa. Hein.
Ouais, on est loin de
là. Ce n'est pas du tout le cas. Hein.
Effectivement, Lucie citait l'étude de l'Agence internationale de l'énergie qui est vraiment loin d'être un repère d'écologistes. Hein. Si je parle de criminel climatique, c'est pas enfin, j'ai pas choisi ce mot-là anodin, quoi. C'est des, enfin, il y a une avalanche d'études depuis plusieurs dizaines d'années qui nous disent qu'il faut arrêter tout de suite les productions. On sait que pour le gaz et le pétrole, c'est 3-4% par an d'ici 2030. Le charbon, c'est 11%. Mmh. On sait qu'il faut laisser grosso modo 80% de nos énergies fossiles dans le sous-sol. Hein. C'est le fameux slogan des activistes climatiques, Keep it in the ground. Ce que je démonte à travers le bouquin, c'est que c'est des entreprises qui n'ont même pas un plan pour stabiliser, même pas pour ralentir, ni même pour qui n'ont même pas un horizon de sortie, ce qui serait déjà problématique. Hein. Ouais. Je rappelle qu'on a 8 ans pour agir, hein, c'est 2030 l'horizon. C'est des boîtes qui, en moyenne, ont un projet d'expansion de 20% de leur production d'ici 2030. Hein. Total envisage de augmenter de plus de 30% sa production de gaz fossile d'ici 2030.
Donc tout ça ne va pas dans le bon
toute
sens,
connaissance hein,
évidemment,
de cause. Voilà.
Pour arriver, évidemment, à la neutralité dont vous parliez, Lucie Pinson. Criminel climatique, donc, c'est cette enquête hein, sur les multinationales qui brûlent notre planète. Et on fera connaissance avec trois d'entre elles dans un instant. C'était la voix d'Aldous Harding sur France Inter et Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission.
La Terre au carré sur France Inter.
Benjamin Franta est chercheur à la prestigieuse université de Stanford, près de San Francisco. Sa spécialité, l'histoire des compagnies pétrolières. Et dans leurs archives, il a trouvé ce livre édité à la fin des années 50. Dès 1959, un scientifique renommé avertit les pétroliers des risques sur le climat engendrés par la combustion des énergies fossiles qu'ils produisent.
Ce scientifique dit le résultat, c'est que la Terre va continuer à se réchauffer. L'accumulation de gaz carbonique sera suffisante pour faire fondre la calotte glaciaire et submerger New York. Toutes les villes côtières seront recouvertes. C'est ce qu'il a dit. Ce sont ses propres mots.
Christophe Bonneuil est historien au CNRS. Il vient de publier un article sur la connaissance du changement climatique par les pétroliers français. Ce document de Total a été déterminant pour ses recherches.
J'étais vraiment très interpellé par cet article à l'intérieur d'un organe de communication d'une grande entreprise pétrolière qui lançait déjà l'alerte en 1971. Donc on est dans un moment où la question environnementale émerge dans l'espace public et où une grande entreprise comme Total se doit de réagir, de développer du savoir et des stratégies.
Voilà, extrait de complément d'enquête en octobre dernier sur France 2 pour parler donc des entreprises climaticides avec nos invités Michael Correa et Lucie Pinson. Lucie Pinson, un commentaire sur finalement la connaissance très bien documentée depuis très longtemps finalement de l'impact des activités pétrolières sur le climat.
Oui, alors aujourd'hui c'est un fait assez connu. Les entreprises pétrolières et gazières ont d'abord tenté de cacher cette information, puis ont tenté de minimiser les risques liés au dérèglement climatique. Aujourd'hui, certaines majors pétrolières et gazières, notamment occidentales, sont plutôt sur du déni de responsabilité en tournant la faute justement sur le consommateur et non afin de détourner l'attention du rôle qu'elles jouent dans l'aggravation de la crise climatique en continuant de poursuivre une stratégie d'expansion dans ces secteurs-là. Et puis ce qu'elles essayent de faire, et on voit là le lien avec le livre, c'est également de soutenir un discours comme quoi elle serait quand même mieux armée pour la transition que les majors du pétrole et du gaz, les NOC, détenus par des grands États comme le Royaume d'Arabie Saoudite ou encore la Fédération de Russie. Voilà, avec ce discours qu'on voit se développer, comme quoi il faudrait mieux quand même confier les clés de la production pétrolière et gazière à BP, Shell et Total, qui sont quand même beaucoup plus acceptables que les Saoudi Aramco.
C'est le même procédé pour le tabac, finalement. C'est la fabrique du doute aussi, hein, autour de cette question climatique et des compagnies pétrolières.
Et puis en montrant que finalement, il y en a certaines qui sont plus propres que d'autres, alors qu'il faut rappeler que s'il faut arrêter toute expansion pétrolière et gazière, elles ont toutes beaucoup de travail à faire, puisque aujourd'hui, la majorité des entreprises du secteur poursuivent une stratégie d'expansion.
Un message d'une auditrice qui nous dit sur franceinter.fr, Michael Correa, je suis fâchée, la responsabilité individuelle est importante. Voilà. Je ne suis pas d'accord du tout avec l'auteur. Si je prends moins l'avion, il y aura moins de vols. Si je demande moins d'emballage, il y en aura moins. Une réponse à cette auditrice, et moi j'ajoute une question. Donc votre livre « Criminel climatique », c'est le titre. Ils sont où dans notre quotidien, ces criminels climatiques? Parce qu'on ne connaît pas leurs noms, mais ils nous entourent.
Bon, on va parler après des noms et du fait, effectivement, comment ils sont très, très enracinés en France. Bon, effectivement, je répète encore, et on l'a dit au début de l'émission, je jette pas le bébé avec l'eau du bain. Effectivement, c'est juste une question d'essayer de recentrer notre attention politique sur ceux qui attisent vraiment, réellement, les flammes du climat. Et effectivement, on a aussi un regard très européano-centré. Faut pas oublier tout le bassin, notamment asiatique, et aujourd'hui le nouveau marché pour ces différentes majors pétrolières et gazières. Rien que pour vous parler, on parle un tout petit peu de la pétrochimie en début d'émission et de la production de plastique, hein, qui est vraiment la nouvelle voie de valorisation du pétrole. En Europe, en Amérique du Nord, le marché déjà commence à être un peu saturé, puisqu'on jette quand même 3 tonnes de plastique dans les océans, enfin une tonne de plastique dans les océans toutes les 3 secondes, pardon. Le marché commence à saturer. Un Américain, il consomme à peu près 100 kilos de plastique par an, on va dire. Voilà, le marché chinois ou le marché indien, un Indien ou un Chinois, c'est en moyenne entre 10 et 40 kilos par semaine. Donc c'est vraiment gigantesque encore ce marché-là.
Mais du coup, on les retrouve où? Alors c'est le plastique, c'est l'essence à la pompe, c'est qui? C'est
Gazprom, par exemple.
Alors Gazprom, c'est tout simplement dans notre gaz au quotidien. Il y a 40% du gaz qui est consommé en Union européenne qui provient de Gazprom. Cette société-là, donc, qui fait partie du trio des entreprises sur lesquelles j'ai enquêté justement. Donc c'était le ministère soviétique du gaz, donc qui a été privatisé en 1989 à la chute de l'URSS. Faut savoir qu'en 75, il y a un contrat qui est signé et qui court toujours entre la France et donc le ministère à l'époque et Gazprom aujourd'hui, pour approvisionner jusqu'à un quart du gaz de GDF, de Gaz de France. Le contrat a été renouvelé en 2006, il court encore aujourd'hui jusqu'en 2030. Donc ça veut dire que Gazprom est enraciné en France en tant que fournisseur de gaz, en tant qu'entreprise à part entière. Aujourd'hui, elle fournit du gaz à plus de 15 000 collectivités entreprises françaises Côté entreprise, il y a des géants de l'immobilier comme Foncia ou Mercedes-Benz France. Côté collectivité, elle fournit du gaz à Nantes Métropole, à l'Université de Strasbourg. Même le ministère de la Défense m'a avoué du bout des lèvres qu'ils ont eu un moment un contrat d'approvisionnement de la part de Gazprom. Quoi. Donc, pour dire comment elles sont vraiment enracinées dans notre quotidien. C'est pas des boîtes lointaines qui sont saoudiennes.
Alors justement, vous montrez dans le livre les liens avec la France, hein, oui. Les partenariats par exemple, le mécénat, et puis bien sûr les investissements, Lucie Pinson, parce qu'il y a beaucoup de banques françaises qui investissent massivement de l'argent dans ces entreprises, encore une fois, climaticides.
C'est ça, on retrouve ces entreprises dans notre compte en banque tout simplement ou dans nos produits d'épargne puisque aujourd'hui on sait que Crédit Agricole et BNP par exemple figurent parmi les premiers financeurs de Saudi Aramco et Crédit Agricole figure parmi les premiers financeurs de Gazprom. Donc c'est bien aussi.
Et c'est pas rien de dire ça hein, parce que ça représente des volumes financiers qui sont énormes.
Ce n'est pas rien du tout. Alors bien entendu côté investissement les gouvernements respectifs de ces entreprises figurent en tête des investisseurs. Mais on a également des investisseurs étrangers. Bien entendu, on connaît tous aujourd'hui le fameux BlackRock, mais on va aussi retrouver Allianz. Et les capitaux frais dont dépendent les entreprises pour se développer proviennent, eux, des banques. Et ces banques, bah, c'est Crédit Agricole et BNP Paribas, aux côtés de grandes banques américaines ou de banques japonaises qui les fournissent à ces entreprises pour qu'elles puissent se développer. Donc c'est assez intéressant puisque ça montre qu'on a également une voie possible d'action pour transformer ces entreprises.
Ouais, et il y a des succès, heureusement, du côté des citoyens. On en parlera dans un instant. Il y a eu un exemple récent avec Shell et la population néerlandaise qui a réussi justement à faire condamner Shell. On en discutera avec vous puisque c'est l'objet également de ce livre Criminel climatique aux éditions de La Découverte.
France Inter. La Terre au carré.
14h31, et oui, c'est l'heure de passer au vert, Camille Cronier.
Et vous ne vous rendez pas compte, vous ne vous rendez compte de rien au chaud ou la lumière allumée à la maison ou au travail, mais je peux vous dire que pour qu'on ait tous de l'électricité en ce moment et que tout fonctionne normalement, ça rame sévère derrière parce qu'une dizaine de réacteurs nucléaires sur les 56 qu'on compte en France sont arrêtés. 20% de capacité en moins. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour compenser et qu'on n'y voit que du feu? Écoutez plutôt le climatologue et physicien François-Marie Bréon.
On est en situation importateur, c'est-à-dire qu'on a besoin d'électricité qui vient de chez les voisins. Et d'autre part, on fait tourner nos centrales au charbon, nos centrales au gaz à fond, ce qui est un problème pour le climat puisqu'on est beaucoup plus de gaz à effet de serre en ce moment que ce qu'on émet normalement.
Et on fait tourner les centrales. Nouveau refrain populaire, sympa, non ? Du charbon et du gaz pour pallier l'arrêt imprévu de 5 réacteurs nucléaires en particulier. Les autres sont en maintenance. Les 4 plus puissants depuis décembre et un cinquième d'un autre type. Depuis jeudi dernier, réacteur touché par une anomalie dans les tuyauteries du système d'injection de sécurité, c'est-à-dire celui qui injecte de l'eau dans le cœur du réacteur en cas de brèche du circuit de refroidissement. C'est un petit peu technique, oui. Et là, c'est la directrice adjointe de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, Karine Hervieux, qui explique en quoi consistent précisément les anomalies.
C'est un phénomène de corrosion à proximité des soudures qui vont créer des petites fissures dans le matériau. Donc ce sont des circuits qui sont en acier inoxydable et il y a des petites fissures qui apparaissent, c'est de l'ordre du millimètre, et qui peuvent se propager en fonction de ce qu'on appelle les chargements mécaniques. Si jamais ces fissures progressent, on peut avoir une fuite au niveau du circuit affecté, des fuites faiblement radioactives dans l'ensemble de confinement.
Alors pas de quoi vous faire paniquer si vous êtes à proximité, c'est-à-dire dans la Vienne, les Ardennes et en Seine-Maritime, mais suffisamment anormal pour que les réacteurs soient arrêtés avec des mois et même jusqu'à une année de vérification à venir par EDF.
C'est une anomalie qui peut affecter soit tous les réacteurs d'un même type, soit tous les réacteurs du parc nucléaire français.
Autant vous dire que l'enjeu est grand vu la place du nucléaire en France, dépendance dénoncée par l'ONG Greenpeace et son directeur Jean-François Julliard.
La France, mais aussi d'autres pays, se retrouvent dans une situation quasi inextricable. Et encore, on s'en sort pas trop mal, entre guillemets, parce que les températures ne sont pas très très basses, mais il suffit d'un coup de froid en France ou dans d'autres pays européens pour qu'il y ait un réel danger pour la sécurité d'approvisionnement. Ce gouvernement, mais ça vaudrait pour les précédents aussi, n'ont jamais anticipé cette situation et n'ont jamais anticipé une véritable transition énergétique, c'est-à-dire qu'on n'a jamais travaillé sérieusement en France, par exemple, sur la question de la réduction de la consommation d'énergie et d'électricité, et c'est un vrai problème.
Comme le vieillissement du parc, dit-il.
L'ensemble des réacteurs vieillissent parce qu'ils sont peu à peu en train d'atteindre l'âge prévu de fonctionnement au départ de 40 ans, Et on voit bien que des anomalies, des problèmes, des défauts, des micro-fissures sur tout un tas de composants, et c'est ce qui se passe là, sont en train d'atteindre plusieurs réacteurs.
Mais Karine Hervieux, à l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, répond sur ce point du vieillissement.
Les réacteurs de 1450 MW, ils ont été mis en service en France à la fin des années 90. Donc on n'est pas sur les plus vieux réacteurs. Et le retour d'expérience internationale montre que c'est assez indépendant finalement de l'âge du réacteur.
Le phénomène est apparu aussi malgré toutes les précautions prises et les tests au moment de la fabrication. Il a été relevé environ 150 fois dans le monde, ce phénomène. Et c'est donc une première en France. Mais plutôt que d'appuyer, dévalider, je sais pas comment dire, servir on va les arguments des antinucléaires, comme Greenpeace France, qui voudrait 100% d'énergie renouvelable en 2050, au nom de la sûreté et de la sécurité d'approvisionnement, il ferait ce phénomène, au contraire, ressortir le besoin de plus de réacteurs. Vous allez comprendre, c'est ce que dit le chercheur François-Marie Bréon, qui lui est archi pro-nucléaire.
Il faut prendre des marges, c'est-à-dire qu'il faut avoir plutôt plus de réacteurs que ce dont on a besoin en permanence pour pouvoir justement se permettre d'arrêter des réacteurs pour contrôle sans que ça mette le réseau par terre. Mais surtout, ceux qui s'imaginent que les énergies renouvelables intermittente nous donnerait une plus grande sécurité d'approvisionnement se trompe lourdement parce que justement actuellement les énergies renouvelables produisent très peu. On est en hiver, donc le solaire produit très peu. On est au milieu d'un anticyclone, donc l'éolien produit très peu. Donc si on avait remplacé des réacteurs nucléaires par des énergies renouvelables éolien et solaire, on serait aujourd'hui dans une situation beaucoup plus difficile que ce qu'on vit actuellement.
À savoir plus d'importations carboné, plus de centrales gaz ou charbon qui tournent, ou alors des coupures d'électricité carrément. Mais vous savez que le sujet est électrique et que les accusations sur les limites actuelles des renouvelables font aussi débat. Bref, la situation est tendue. Là, ça passe, tout juste, mais l'hiver n'est pas terminé. Et la seule chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que la production nucléaire d'EDF pour 2022 a été revue à la baisse. 300 à 330 TWh contre 330 à 360 à l'origine.
Et c'était Camille Passauvert que vous réécoutez bien sûr sur la page de la Terre au Carré.
Lucie Pinson, entre donc un parc nucléaire assez fragile, des fossiles dont il faut sortir et des renouvelables qui ne sont pas encore, on va dire, à la hauteur. Comment on se sort de cet imbroglio énergétique incroyable ?
Merci de nous éclairer.
Alors, clairement, j'ai pas la réponse à cette question, mais ça montre bien, par contre, l'enjeu de planification et le retard qui a été pris par les gouvernements précédents dans le développement d'alternatives au tout nucléaire pour la production d'électricité en France. Et quand même, il faut signaler le retard qui a été pris en France et qui malheureusement ne semble pas être en voie d'être rattrapé sur le développement de capacités de production d'énergie renouvelable.
On a des plus mauvais élèves européens. On devait être à 2020. Enfin, en 2020, on devait être à 23% de mix renouvelable, enfin d'énergie renouvelable dans notre mix. Là, on est à peu près à 17%. En termes d'actu, je rappelle que quand même mercredi dernier, on a eu pour, bon, c'est la véritable Arlésienne, ça devient limite tragico-comique, le père de Flamanville qui est encore retardé. Quoi. Je rappelle que le père de Flamanville, qui est censé être le fleuron technologique de l'industrie nucléaire française, c'est 10 ans de retard au niveau du chantier, c'est un coût qui a été multiplié par 6, c'est de 3,3 à plus de 19 milliards d'euros. C'est une condamnation pour travail au noir, c'est 2 ouvriers morts. Je rappelle aussi qu'on a, encore une fois, même pas 10 ans, donc c'est 2030 l'horizon, pour essayer de limiter les dérèglements climatiques à 1,5 degré. On n'y est pas du tout, on est sorti de la COP26 à Glasgow en novembre dernier. Les plans climat des différents pays fait qu'on est à 2,7 degrés.
Mais Michael Correa, c'est une vraie question aujourd'hui dans le débat justement autour du nucléaire et de l'écologie, pour les écologistes oui. En tous les cas. Vous écrivez-vous, le nucléaire ne nous sauvera pas non plus.
Non, puisqu'il y a aussi... Au-delà de ce fiasco industriel que Flamanville nous montre aussi, bon, il y a la question de l'uranium aussi. Il y a cette espèce de mythe de l'autonomie énergétique française. Bon, l'uranium, on va le chercher au Niger et aussi beaucoup au Kazakhstan, un magnifique pays dont on a découvert depuis peu la répression policière. Il y a encore une fois la question des déchets, qui est l'espèce de talon d'Achille de cette industrie-là. Je rappelle qu'à Bure, il y a toute une région qui a été militarisée et il y a aussi une répression contre les militants antinucléaires assez féroce. Et je termine là-dessus. encore une fois, c'est la question démocratique qui est vraiment essentielle. On voit comment tout le monde est vraiment féru de ces grands débats énergétiques. C'est un débat démocratique extrêmement intéressant. Chantoine Jeannot,
très complexe.
Oui, bien sûr, mais les citoyens, ils peuvent très bien s'informer là-dessus, et je pense qu'ils sont très bien informés. Chantal Jouanneau, qui est la présidente de la commission nationale du débat public, encore alertée il y a quelques semaines pour dire « Je ne comprends pas pourquoi Emmanuel Macron a décidé tout seul, sans aucune consultation en novembre dernier, de construire, de relancer des nouveaux EPR. » On ne sait même pas combien, on ne sait toujours pas à l'heure actuelle combien c'est. Il y a une vraie question de débat démocratique à avoir, parce que la question énergétique, elle concerne tout le monde en termes de consommation d'énergie. Et là, encore une fois, il y a la question de la sobriété qui est là, ou la question aussi juste du paysage. De quel paysage on veut pour demain.
Allez, Lucie, passons pour conclure là-dessus avant de reprendre tout à l'heure.
A été dit, je voulais rebondir sur le mot débat qui, malheureusement, peut avoir lieu de manière extrêmement ad hoc, mais devrait être organisé au niveau national avant de décider du lancement de la construction de nouveaux EPR. C'est un débat qui nous concerne tous, qui nous engage sur plusieurs générations et donc qui devrait trouver toute sa place normalement, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, dans un contexte en plus de préélection présidentielle.
Allez, Terre au carré, autour de ce que vous appelez les criminels climatiques. Michael Correa, c'est ce livre qui paraît à la découverte.
J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte, dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent c'est l'automne, et plus rien ne m'étonne, elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma roue, ma roue. Passer les frontières, style derviche, tourneur, contrebandier naguère, demande à ta sœur. J'ai passé les checkpoints, tel un épouvantail, en frappant à ta porte, je montais sur les détails. J'ai traversé l'Europe jusqu'à plus jamais soif, enfant de mon époque, sans passion et sans taf. À présent c'est l'hiver, et plus rien ne m'étonne, ni pleurer des rivières, ni les débris de carbone. Je roule. Je voulais te paraître le meilleur du monde. Je regardais la mer comme un vieillard mourant, mais je levais mon verre à tous les éléments, le nez planté au ciel et même au firmament. Mais la route m'appelle, je suis son vieil amant. Je roule.
La voix de Benjamin Biolay.
La Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Michael Correa, journaliste à Mediapart, et Lucie Pinson pour l'ONG Reclaim Finance. Vendredi, Lucie Pinson, on saura logiquement si l'Europe inclut dans sa taxonomie verte le nucléaire et le gaz. Ça fait l'objet d'un débat évidemment très houleux, parce que pourquoi est-ce qu'on mettrait dans le vert des énergies comme le nucléaire ou le gaz, énergie fossile. Ça c'est important, cette notion de taxonomie verte que le public commence un petit peu à connaître là maintenant.
C'est extrêmement important puisqu'il s'agit de définir une liste d'activités qu'on peut qualifier comme étant durables et donc des activités qui sont compatibles dans un monde à 1,5 degré. Et malheureusement, il est beaucoup de voix s'élèvent contre l'inclusion du nucléaire et du gaz qui est soutenu par le gouvernement français et d'autres gouvernements européens, notamment d'Europe de l'Est, en faveur de l'inclusion de ces deux énergies, le nucléaire qui pose des énormes problèmes de traitement de déchets, donc qui n'a rien de durable, et bien entendu le gaz, qu'il faut le rappeler, est une énergie fossile, qui ne figure pas même dans la taxonomie russe, qui est quand même le deuxième plus gros producteur de gaz au monde.
Donc ça n'existe pas. Dans la taxonomie russe,
dans la taxonomie russe, on reconnaît que le gaz ne peut être qualifié d'énergie durable. Et bien entendu, si il trouve in fine une place dans la taxonomie européenne, le produit qui est la pièce maîtresse de la stratégie finance durable de l'Union européenne va être décrédibilisé et ne va pas pouvoir jouer son rôle de d'indicateur, de boussole pour les acteurs financiers. D'où le fait que une coalition d'investisseurs qui pèse quand même près de 50 trilliards d'euros s'est positionné contre son inclusion, contre l'inclusion du gaz dans la taxonomie, et le fait également que le président de la plateforme finance durable de l'Union européenne, qui doit conseiller la Commission sur des bases scientifiques, s'y oppose également.
Ouais, sauf que l'issue, Michael Correa, ça penche de quel côté de la balance?
A priori, c'est parti pour que le gaz fossile et nucléaire soient labellisés comme vert, donc c'est ça qui est assez indécent. Ce qui est indécent, c'est le gaz, l'arnaque intellectuelle, c'est que le gaz soit vu comme une énergie de transition. Comme c'est deux fois, on dit que c'est deux fois moins émetteur que le charbon, l'arnaque elle est là. Bon, le problème c'est que le gaz, on est en train de s'apercevoir, notamment comment il est produit par les géants gaziers, il est surtout produit sous forme liquéfiée, le GNL, on est en train de s'apercevoir que son empreinte carbone est 20% plus importante que celle du charbon utilisé pour se chauffer, donc...
Et peut-être cela veut dire que si in fine ça passe, eh ben demain nos banques vont pouvoir nous vendre des produits d'épargne dits durables, dans lequel en vérité notre argent contribuera à financer du nucléaire et du gaz.
Alors justement, Gilles pose cette question: comment faire pour que mon épargne ne finance pas les criminels climatiques? Comment on fait? Parce qu'on a beau dire à nos conseillers à la banque j'ai pas envie, en général ils savent même pas eux.
Alors il y a plusieurs solutions. La première déjà, c'est de pas ne mettre tous ses œufs dans le même panier, donc de pas forcément avoir qu'une seule banque avec qui nous avons un compte courant et des produits d'épargne. Certains Français vont être un peu limités dans leur choix de banque puisqu'ils ont déjà des crédits qu'ils ne peuvent forcément déplacer d'une banque à l'autre. Mais il est certain que si ils ont encore ce luxe de pouvoir bouger, eh ben il faut éviter les principales banques françaises qui ont pris des grands engagements sur le climat, notamment encore lors de la COP26, mais qui pourtant, depuis le début de l'année, font preuve d'un certain business as usual avec le renouvellement de financement aux majors pétrolières et gazières comme BP et Total pour BNP Paribas. La deuxième solution va être de regarder vraiment les produits d'épargne, mais là il va falloir s'armer de patience et d'une loupe, puisque si cette taxonomie est dévoyée, eh ben, ce sera extrêmement compliqué pour le consommateur d'y voir plus clair. Et donc dans l'intervalle, il est possible de se tourner vers des alternatives beaucoup moins connues du grand public et d'investir dans des projets d'énergie renouvelable citoyenne, par exemple avec énergie partagée, ou encore de prendre un compte épargne avec la NEF.
Autre question de Gilles, le même Gilles qui parle de China Energy. Il dit: comment, face aux émissions de gaz à effet de serre que China Energy produit, Michael Correa, qu'est-ce qu'on peut faire face à un groupe aussi grand que ça? Et Maël ajoute: est-ce que ces entreprises ont des programmes de recherche pour sortir de ces énergies, et que peuvent faire les autorités ou même les scientifiques?
Leader sur le marché du charbon, on le rappelle.
Alors, elles n'ont pas des chercheurs qui travaillent à sortir à ça, mais au contraire, des chercheurs qui travaillent à perpétuer cette consommation de charbon. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, on parle de charbon, et encore une fois, on se dit: tiens, c'est la Chine, ça ne nous regarde pas. La France, elle n'a pas de responsabilité là-dedans. Je rappelle quand même, pour montrer un peu ces liens-là avec la France, en 2019, quand la Chine est reçue de façon officielle à l'Elysée, il y a un contrat qui est signé avec EDF et China Energy pour mettre en place un parc éolien au large des côtes chinoises. On peut se dire c'est intéressant, c'est peut-être China Energy qui commence à faire son virage vert. Sauf que quand on mesure la capacité électrique de ces éoliennes, elle est vraiment ridicule par rapport tout ce que construit chaque année China Energy en Chine et à travers
quoi,
le monde.
Alors ça veut dire quoi? Que l'économie va toujours, enfin le capitalisme, si on doit dire comme ça, va toujours l'emporter sur même des mesures politiques
Pour terminer là-dessus, en tout cas, il y a cette question, Lucie le montre très bien, de retirer à minima les capitaux. C'est-à-dire que, par exemple, EDF, et c'est au cours d'une enquête Mediapart, je les avais sollicité, EDF, malgré cette opération, qui est en fait une opération de greenwashing pour Shell Energy, elle continue à avoir des capitaux dans un consortium de trois énormes centrales au charbon qui appartient à Shell Energy. Il y a une étude qui datait, une étude de l'été dernier, qui était parue dans Nature, donc c'est pas n'importe quoi comme revue scientifique non plus, qui disait que ces trois centrales-là, elles auraient dû fermer depuis 2020 pour être sur une trajectoire de 1,5 degré, quoi. C'est vrai que EDF m'a dit, on n'a pas de plan encore de sortie effectif là-dessus.
Michael Correa, vous parlez 2030, quoi. Vous parlez de néocolonialisme fossile. Oui. L'exemple de la Chine, par exemple, avec tout le cynisme que ça représente, et le pays qui est celui probablement le plus touché au monde par le réchauffement climatique, en tout cas l'un des plus touchés, c'est le Bangladesh. Qu'est-ce qui se passe là-bas alors?
Bon, Bangladesh, bon, déjà pour rappeler, il y a à peu près 700 000 personnes qui chaque année doivent déménager ou doivent partir de leur maison pour fuir la montée des eaux, quoi. Ce qui se passe avec China Energy, c'est que elle bénéficie de ce qu'on appelle les routes de la soie. C'est cette grande initiative géopolitique pour relier la Chine à l'Asie, au reste de l'Asie et à l'Afrique. Elle sème ses centrales au charbon à travers ces deux continents-là. Ce qui se passe au Bangladesh, bon, déjà, China Energy est en train de construire des centrales dans les Sundarbans. C'est un des grandes zones, c'est un écrin de biodiversité extrêmement protégé, notamment par l'UNESCO. Ce qui se passe, c'est qu'elle va mettre en place ces centrales-là. Elle va d'abord embaucher que du personnel chinois, donc pas des ouvriers
du Bangladesh
locaux. Elle va mettre en place ce qui est un vrai levier structurel du colonialisme historique, c'est la question de la dette. Aujourd'hui, il y a des pays comme le Kenya ou l'Inde dont 70% de la dette est détenue par la Chine à cause de ces centrales-là. C'est-à-dire que China Energy vient, on vous fait la centrale au charbon et vous nous payerez plus tard. Et le pire, c'est qu'il n'y a même pas... Enfin, il y a 40% de l'électricité qui arrive jusqu'aux habitants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'infrastructure logistique, électrique. Enfin, il n'y a pas les fils, en gros, qui va mener l'électricité jusqu'à ces jours-là.
Mais donc, même quand le président chinois Xi Jinping annonce, notamment à la rentrée, qu'il n'y aura plus de construction de centrales à charbon à l'étranger, dans un premier temps, ce n'est pas un bon signe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de tordre le bras à ces grands groupes, Lucie Pinson.
Alors en effet, c'est extrêmement problématique que la Chine, pour l'instant, n'ait pris des engagements que sur l'arrêt de nouvelles...
On ne peut pas dire que c'est déjà ça ?
C'est pas forcément. Enfin, c'est déjà ça, oui, bien entendu. Mais aujourd'hui, la Chine, malheureusement, continue de développer massivement de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de charbon sur son territoire. Et bien entendu, le climat est un problème international et les émissions de gaz à effet de serre nous impactent tous. Donc, il faut trouver des leviers pour pousser la Chine à mettre en place une véritable transition énergétique sur son territoire qui bénéficiera quand même de facto aux populations chinoises qui sont en première ligne des impacts des émissions liées aux centrales. On peut le rappeler quand même, le charbon n'est pas seulement une plaie pour le climat, c'est aussi une plaie sanitaire. Et d'ailleurs, la Chine avait d'abord diminué ses objectifs de construction de centrales à charbon il y a quelques années pour des raisons sanitaires, puisque clairement, sa population suffoquait dans certaines régions.
Alors des leviers citoyens par exemple, parce que là aussi c'est un contre-pouvoir important. On va prendre l'exemple de la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise Shell, qui est l'une des plus importantes sociétés multinationales. Aux Pays-Bas, un collectif d'ONG s'est battu pour obliger cet industriel à baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Reportage de France 24 en mai dernier.
Change needs to happen fast.
Il y a quelques mois, déjà en pleine tourmente judiciaire, le géant pétrolier néerlandais définissait sa stratégie de neutralité carbone, moins 30% de réduction de CO2 d'ici 2035. C'était encore trop peu pour le peuple contre Shell, le collectif à l'origine de l'action en justice lancée en avril 2019. 6 ONG et 17 000 citoyens néerlandais qui demandent à la justice de leur pays d'obliger Shell à modifier sa politique pour s'aligner sur l'accord de Paris, avec un objectif chiffré 45% d'émissions de CO2 en moins, d'ici 2030.
La politique de Shell est en contradiction avec cet objectif climatique mondial et contribue ainsi à la réalisation d'un grand danger pour l'humanité, les droits de l'homme, les générations futures, l'environnement et la nature.
De son côté, Shell met en avant ses initiatives déjà en œuvre pour soutenir la transition énergétique et assure être en conformité avec la loi.
Er is geen rechtsregel.
Dans la situation actuelle, il n'y a pas de législation qui oblige les parties privées à réduire les émissions carbone avant 2030.
Si la justice donne raison au collectif environnemental, Shell devra modifier sa politique d'émissions de CO2. Et le coût alors porté à l'une des plus grandes industries pétrolières du monde ira sans aucun doute bien au-delà des frontières néerlandaises.
Alors, l'issue de ça, Michael Correa, c'est quand même une condamnation, hein?
Oui, oui, il y a un vrai front judiciaire qui est en train de se monter actuellement. Aux États-Unis, il y a quand même ExxonMobil qui a été très récemment encore auditionné par le Congrès américain. Ouais. En France, il y a des campagnes qui sont en train de se mettre en place contre Total. Je rappelle aussi que la grande affaire du siècle, c'était plus de 2,3 millions de personnes qui avaient signé cette pétition-là. Donc, il y a un vrai engouement citoyen derrière. Je pense que c'est une des grandes perspectives de lutte qui est en train de s'esquisser aujourd'hui, une des grandes forces. On n'a pas la question financière, la question judiciaire, c'en est une aussi.
Donc, il y a quelques leviers quand même. Camille.
Une dernière question, Jérôme nous pose cette question sur franceinter.fr. Que pensez-vous de François Fillon qui intègre des groupes russes de gaz, Lucie Pinson?
Bah, c'est malheureusement pas un cas isolé. On voit encore un cas de revolving door. Hein,
groupe pétrolier, je viens de vérifier.
Voilà, donc un cas de conflit d'intérêts avéré et de portes coulissantes, les revolving doors, entre le secteur privé et le secteur politique. Et malheureusement, tant qu'on n'interdira pas ces va-et-vient entre le public et le privé, eh bien malheureusement, on a peu de chances de voir nos gouvernements prendre les décisions nécessaires pour infléchir la tendance actuelle et nous permettre de limiter le réchauffement à 1,5 degré.
Michael Correa, il y a un bel exemple aussi dans votre livre, l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.
Gerhard Schröder, qui de 98 à 2006, hein, quand il était chancelier, 2005-2006, quand il était chancelier d'Allemagne, qui a milité activement pour que l'Allemagne achète son gaz à Gazprom. Ouais. Trois mois après son départ de la chancellerie, il est toujours président du comité de surveillance de Nord Stream, qui est le complexe de pipeline, le corridor énergétique qui relie directement la Russie à l'Allemagne. Il y a eu pareil il y a quelques années avec Nord Stream 2, qui est le nouveau pipeline qui vient d'ouvrir là en septembre dernier. Cette fois-ci, c'était la chef de la politique énergétique du ministère de l'économie allemand qui s'est retrouvée, alors ça c'était deux semaines après qu'elle ait quitté son poste, qui s'est retrouvée propulsée à la tête de la communication du consortium Nord Stream.
Donc on entretient des liens politiques et puis ensuite ça sert quand on n'est plus aux commandes.
Tout à fait, mais ça marche aussi dans le sens inverse. Il faut quand même rappeler qu'on a un banquier à l'Elysée en ce moment et que cela explique en partie le fait que le gouvernement français rechigne fortement à contraindre les acteurs financiers français et à les forcer à tenir leurs engagements, leurs propres promesses en matière climatique en interdisant leur financement à de nouveaux projets d'hydrocarbures.
Donc on revient finalement à ce qu'on disait au début de l'émission. Est-ce que finalement ce ne seraient pas les individus qui, à travers la pression citoyenne comme on dit, pourraient réussir à peut-être faire basculer les choses? Alors, si les politiques ne le font pas.
L'exemplarité individuelle compte, mais encore une fois, la mobilisation individuelle doit être orientée vers un changement structurel de nos modes de production économique.
Michael Correa, c'est quoi?
Il y a plusieurs leviers. Oui, pardon.
Mais c'est ça.
Il y a plusieurs leviers. On est quand même face à des mastodontes capitalistes, et encore une fois, qui sont enracinés profondément, et qui sont encore une fois le socle de nos sociétés industrialisées.
Et qui emploient beaucoup de monde, il faut le dire aussi, évidemment.
Qui emploient beaucoup de monde. Il y a toute la question de la reconversion aussi des travailleurs. Je rappelle quand même qu'il y a un sondage qui est sorti il n'y a pas longtemps qui disait qu'il y avait plus de 40% des ouvriers de l'industrie fossile qui voulaient déserter ce secteur-là. Mais effectivement, il y a un rapport de force terrible qu'on doit créer face à ces géants-là. Donc il y a toute une pluralité de pratiques qu'on doit mettre en place.
Il y a aussi un vide juridique peut-être, parce que vous rappelez dès le début du livre que finalement ces multinationales ont carte blanche pour leurs émissions de dioxyde de carbone et qu'elles ne sont absolument pas soumises à la transparence, Lucie Pinson.
Tout à fait, il n'y a aucun...
Donc ça, c'est un gros problème quand même.
Elle pollue en toute légalité, de la même manière que nos acteurs financiers financent le chaos climatique avec un laissez-passer.
Le débat parlementaire en mars 2021 sur la loi climat, sur la taxation des multinationales qui allait émettre beaucoup trop de CO2 a été censuré par le président de l'Assemblée nationale lui-même. Hein, donc c'est assez terrifiant.
Et votre livre l'est aussi, d'ailleurs, je dois dire, Michael Correa, terrifiant.
Bon début de semaine, les amis.
Voilà, bon lundi.
Et la conclusion est bien.
Criminel climatique, enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète. C'est édifiant, mais c'est passionnant et c'est aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup à tous les deux et merci à Lucie Pinson. Reclaim Finance, c'est votre ONG et bien sûr, tout est sur Internet et en lien sur La Terre au Carré. Merci.